Blue Jays, qui était avec Seattle. Il s'en va jouer avec les Yankees. Et bonne nouvelle pour les Yankees, à compter de demain, ils vont saluer le retour au jeu de Giancarlo Stanton, qui était blessé depuis quelques mois déjà.
Merci beaucoup, mon cher Dan. On va revenir justement sur les Raptors parce que la ville de Toronto est complètement sans dessus. C'est aujourd'hui jour de grande célébration, j'allais dire, pour Drake et les Raptors. Mais pour en discuter, on va aller joindre quelqu'un qui est en fait un ami, si j'ai bien compris, notre collègue Will D'Olive. Il s'agit de Cédric Engun, qui est responsable des sports à Choc FM, qui est une radio communautaire francophone à Toronto. Cédric Engun, bonjour.
Bonjour.
Mais d'abord, pouvez-vous partager avec nous la frénésie puis l'ambiance qui a régné aujourd'hui à Toronto là, à la suite de ce championnat, ce premier championnat des Raptors?
Ben, écoutez, ça fait depuis jeudi que les Raptors sont champions. On a toujours du mal à y croire parce que Toronto n'est pas habitué à ça, à avoir des succès sportifs. Il faut rappeler que l'équipe chérie de la ville, les Maple Leafs, la plupart d'entre nous, en tout cas deux générations de Torontois, n'ont jamais vu les Leafs gagner quoi que ce soit depuis 1967.
Ça risque de prendre deux, trois autres générations, je ne vais pas vous décourager.
Voilà, non, il faut être gentil.
60 ans à peu près.
Ben, ils sont allés en série, mais pas le Canadien, c'est déjà ça. Par contre, les Blue Jays, c'était depuis 1993, ce qui fait que, bon, et en plus, ils sont en période de reconstruction. C'est vrai qu'il y a eu le petit intermède avec le Toronto FC, mais on est d'accord que le soccer, c'est vraiment pas le sport majeur à Toronto, non. Même s'il y a beaucoup d'excitation par rapport à ça. Donc, par rapport aux Raptors, il y a eu beaucoup d'excitation, pas simplement des Torontois, mais il y a beaucoup de touristes en ville. Ah, il y a beaucoup de gens maintenant qui portent le maillot des Raptors, même dans les administrations, dans les banques, dans les compagnies privées. Il y a tout le monde qui porte, que ce soit le chandail lui-même ou un petit maillot ou une casquette des Raptors. Vraiment, c'est l'équipe non seulement de la ville, mais c'est aussi l'équipe de tout un pays. Ouais. Et franchement, avec les médias sociaux, la mobilisation a été vraiment maximale. On parle de près de 2 millions d'habitants. Il faut savoir que Toronto et l'agglomération, ça prend 3 millions de personnes. Donc, virtuellement, 2 Toronto sur 3 étaient présents à la parade.
En quelque part, le long du défilé. Wow, 2 millions de personnes. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Ils chantaient, ils dansaient, ils buvaient, ils fumaient du pot, je sais pas. C'était quoi l'ambiance pendant le défilé, là?
Ce qui est certain, oui, ils fumaient, puisque c'est légal maintenant. Donc, oui, je n'y mets pas. Mais par contre, oui, il y a eu beaucoup d'excitation. Il y a des gens qui étaient là-bas, parce que la parade, on avait annoncé depuis, je pense, vendredi soir ou samedi matin. Oui. Et il y a des gens qui étaient là-bas depuis samedi soir, même depuis dimanche matin, qui étaient vraiment en première loge. Oh, oui, ben vous le savez,
des vrais fans.
Toronto a vraiment changé. Non, vraiment. Mais je ne sais pas si ce sont des vrais fans, mais c'est plutôt dans le sens où il y a des gens qui ont trouvé par ce moyen-là une façon pour eux de trouver de vivre quelque chose d'extraordinaire, de vivre un moment que ils se disent peut-être que ça n'arrivera plus jamais dans leur vie. Donc, ils voulaient vraiment, vraiment être présents. Moi, je salue ça, même si moi, je pense pas que je le ferai un jour. Allez, il faut savoir qu'on a eu de la chance aujourd'hui. Je pense qu'on a eu 25 degrés à Toronto. Mais toute la fin de semaine, on n'était même pas plus de 20 degrés. Donc, c'était le jour parfait pour une journée presque parfaite.
Et c'est ça. Parlons-en du fait que ça a été presque parfait parce que malheureusement, il y a eu des coups de feu. On dit même qu'il y a eu 2 personnes qui auraient été atteintes. C'est venu un peu assombrir la fête. Est-ce que les gens l'ont perçu ou si c'est très peu de gens qui s'en sont rendus compte?
Si, il y a des gens qui l'ont perçu. C'était des coups de feu. Bon, faut dire qu'il y avait des pétards et peut-être qu'il y a eu un petit peu de confusion. Mais après, lorsqu'ils ont compris que c'était des coups de feu, il y a eu comme un genre de début de panique, pas d'émeute, mais les gens se sont séparés comme ça en disant c'était pas tout à fait près du lieu où les Raptors avaient leur cérémonie, c'était juste un petit coin de rue, pas loin, mais toujours est-il que... Ouais, c'est ça. Je suis même pas sûr que les joueurs étaient au courant de ce qui s'est passé, parce que j'ai vu aucune émotion sur leur visage, mais toujours est-il que, bon, et là on peut remercier les forces de l'ordre de... La ville de la police de Toronto, ils ont traqué très vite ceux qui ont causé cet incident-là et puis ils sont en détention actuellement. Et malheureusement, ce sont 2 jeunes dames qui ont été blessées, mais apparemment, leur, ce sont pas des blessures très graves et leur état de santé, de toute façon, ce sont pas des blessures mortelles d'après les premiers éléments qu'on a reçus.
Bon, au moins, il y a une bonne nouvelle. Est-ce que, vous qui suivez le sport sur une base quotidienne à Toronto, là, en quoi cet événement-là, la victoire des Raptors, est plus importante ou en tout cas semble semer beaucoup plus d'enthousiasme que les deux derniers championnats des Blue Jays en 92 et 93? On a l'impression que c'est une victoire encore plus importante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis si oui, pourquoi?
Ben, ce qui est certain, c'est que en 93, j'étais pas là, j'étais tout petit de toute façon, donc j'ai aucune idée de ce qui s'était passé. Mais le basketball, je dirais, en Amérique du Nord, quand on pense aux quatre grandes ligues, à savoir la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de hockey, la Ligue majeure de baseball, et bien sûr la NBA, c'est, disons, la ligue la plus internationale. Et Toronto représente bien ça. Il faut savoir que le président de l'équipe, il est d'origine nigériane, que dans son effectif, il y a des Congolais, il y a un Camerounais, il y a un Espagnol, il y a des Américains, bien sûr, et bien sûr, il y a un Canadien, d'ailleurs, qui vient de Montréal, Chris Boucher. Merci, oui. Donc, la population de Toronto, qui, on dit, l'une des villes les plus internationales au monde, avec Montréal, se reflète dans cette aventure-là avec les Raptors. Ils représentent vraiment, en quelque sorte, ce qu'ils sont eux-mêmes. Lorsqu'on va au game des Leafs, on voit plutôt un certain autre type de population. Mais lorsqu'on va au game des Raptors, c'est vraiment le côté multiculturel, la diversité. Et avec, comme je l'ai dit, avec les réseaux sociaux, tout le monde s'est vraiment retrouvé autour de cette équipe-là. Et puis, il faut savoir aussi que, oui, on avait de bons espoirs que ça allait être une belle année, mais la dramaturgie qui a été créée autour de cette ascension de cette équipe-là. Je ne sais pas si vous avez suivi le fameux match 7.
Ah oui,
avec là où il y a le ballon qui rebondit.
Contre les Sixers de Philadelphie, évidemment. Qui n'a pas vu ce panier qui rebondit quatre fois avec aucune seconde à faire au tableau, puis Kawhi Leonard
qui l'a scoré. Il restait exactement 4 secondes 2. Personnellement, j'étais à la tribune de presse pour Choc FM et pour mon expérience, en tant qu'animateur radio, j'ai jamais vu des journalistes se jeter dans les bras les uns des autres après un shoot. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ça n'arrive jamais. Mais parce non, qu'on essaye toujours de rester un peu, vous voyez, sérieux.
Un peu plus neutre, un peu plus distant. Parlons-en de Kawhi Leonard parce que on ne sait pas s'il va rester ou non à Toronto. C'est un joueur qu'ils ont acquis, mais avec aucune certitude qu'il allait signer à moyen ou à long terme. C'est quoi les évaluations que vous faites ou les gens de Toronto? Quel est l'espoir de garder Leonard au sein des Raptors?
Bon, déjà, il y a une petite particularité dans son contrat, c'est que en fait, il est toujours sous contrat, mais qu'il a une option à lever ou pas. C'est-à-dire qu'il peut décider de rester et prendre, je ne sais plus si c'est 18, 19 ou 20 millions de dollars et rester une année supplémentaire. Mais dès l'instant, il ne lève pas l'option, il devient agent libre sans restriction. Et à partir de là, étant donné que Toronto, selon la convention collective en NBA, puisque Toronto est la deuxième équipe qu'il a reçue après l'équipe qu'il avait pris au repêchage, San Antonio, Toronto a virtuellement le droit de le faire signer pour une cinquième année supplémentaire et lui donner 45 millions de dollars de plus que toutes les autres équipes. Donc, du point de vue financier, oui, c'est Toronto qui doit choisir. Du point de vue physique, du point de vue réussite et tout ça, il sait qu'ici, il sera dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Maintenant, on sait que depuis à peu près un an et demi, lui, il est originaire du sud de la Californie, il veut rentrer chez lui, il veut plutôt jouer devant son public, que lui, son but, c'était de remporter encore un autre titre NBA et de pouvoir continuer. Kawhi Leonard, je l'ai vu deux ou trois fois dans les vestiaires. Évidemment, bon, moi, quand j'y vais, je parle seulement français avec les joueurs parce que c'est ma mission. Mais c'est quelqu'un qui dit très peu de choses aux journalistes. Par contre, avec ses coéquipiers, il fait des jokes dans le vestiaire. Il est pas mal bavard quand même, contrairement à ce qu'on croit. Mais pour parler de lui-même, non, absolument pas. Il dit quasiment rien. Quand on lui pose une question, il dit maximum trois mots.
Ah oui, c'est un homme de peu de mots quand il est question de parler aux médias.
Ça, il parle surtout sur le terrain quand il faut jouer, quoi.
Ben, c'est ce qui compte. Je veux finir en parlant du directeur général des Raptors qui est dans une fâcheuse position, Masal Ujiri. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe avec lui puis quelle est la suite des choses?
Fâcheuse position, dans quel sens?
Ben, je sais pas, qu'est-ce qui va arriver avec lui? C'est quoi ça?
Ah, OK. OK. Ben, là, je pensais que vous alliez parler de l'incident avec le policier à Golden State.
Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un autre truc qu'on pourrait discuter, oui, si vous voulez.
OK, bon, rapidement, par rapport à l'incident qu'il y a eu à Golden State, d'après ce qui est dit, il devait montrer, vous savez, comme pour tous les journalistes, on a des petites cartes d'accréditation d'accès, qu'on porte autour du cou. Et au moment où les Raptors avaient remporté le match 6, il aurait dû présenter sa carte pour pouvoir monter sur le parquet. D'après le témoignage du shérif de la ville de San Francisco, je pense, ou Oakland, il ne l'avait pas sur lui. Mais personnellement, j'ai vérifié deux ou trois vidéos à partir de trois autres sites différents. Au moment où les Raptors, l'arbitre ou la sirène retentit pour dire que le match est terminé, Masai Ujiri a sa carte dans la main. Donc, au moment où le match termine, il a sa carte dans la main. Et il la met sur son cou. Et il sprint vers le parquet. Donc, entre le moment où il met la carte dans sa main et le moment où il arrive sur le parquet, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. J'ai lu un témoignage aujourd'hui d'un spectateur qui était au stade qui dit que Masai Ujiri a voulu présenter sa carte, mais que le shérif a essayé de le bloquer et l'a poussé, ce qui fait que Masai Ujiri a répondu, c'est-à-dire il a repoussé aussi à partir de là, il y a eu comme un genre de bousculade. Ouais. Mais je pense pas que ça ira plus loin que ça. J'ai vérifié un peu les textes de loi, ce sera au pire une amende, il n'y aura rien du tout. Mais d'un autre côté, il y a eu une offre majeure qui a été faite à Masai Ujiri par le propriétaire des Washington Capitals et des Washington Wizards, il s'appelle Ted Leontis.
Oui.
C'est un milliardaire de la région de Washington. Il lui a offert un salaire de 10 millions de dollars et surtout des parts des actions dans la holding qui gère la société qui gère les Capitals et les Wizards, ce qui est absolument énorme, astronomique. Je ne sais même pas personnellement pourquoi ils font ça, parce que c'est un peu exagéré, mais bon.
Ils le veulent. Donc, ils pourraient quitter.
Ils le veulent, mais.
Ils pourraient quitter Toronto avec une offre aussi alléchante. Donc, Toronto, les Raptors, ils fêtent aujourd'hui, mais si Kawhi Leonard puis Masai Ujiri s'en vont, la fête risque de. Le lendemain, risque de déchanter un peu, là. On fêtera peut-être pas
tout. Honnêtement, pour ne pas vous interrompre, je ne pense pas que Masai va s'en aller parce que le groupe qui gère les Raptors, les Maple Leafs, c'est MLSC. C'est le groupe le plus prospère en Amérique du Nord en matière de sport. Ils ont les moyens de tripler son salaire. Je ne pense pas que ce sera l'argent qui fera la différence. Il faut savoir que les Washington Wizards, c'est une équipe qui est un peu en décadence. Okay. C'est comme, je ne sais pas, je pourrais comparer ça à peut-être Arizona, l'équipe de hockey, comment on les appelle? Les Coyotes?
Les Coyotes de l'Arizona, oui. Donc, c'est une équipe qui cherche, donc c'est une équipe difficile, puis peut-être que ça ne tentera pas d'aller dans une équipe qui n'est pas très victorieuse.
Absolument. Mais il y a trop d'inconnus dans un défi comme ça.
C'est intéressant.
Je pense pas qu'il le fera.
Cédric Engon, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci infiniment de nous avoir fait partager.